Ma come on a TV, ma come on a TV, ma come on a TV, ma come on a
Tu dis que la police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, t'en plus jamais la langue des trams. Style enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup poids et sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif à la renvoi, peigne derrière les fans que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'un nous perde son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait abattre.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les tiégards ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Je sais ce qu'ils veulent m'offrir. Une mort lente et douce pour moi. Oui, c'est ce qu'ils veulent, mon frère.
Je veux pas rester ici.
Bon sang, laissez-moi en sortir.
Soit disant ici pour aller mieux.
Mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Je dois m'évader,
ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Y'a comme un goût de dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété, tout démonté, tout brûlé.
Sortez les briquettes, sortez les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Salut.
Salut. Vous écoutez Les Murs ont des oreilles
sur Radio Kaléidoscope 97 FM
à Grenoble. Donc c'est une émission qui passe le troisième mercredi de chaque mois.
De 19h à 20h.
C'est une émission contre les prisons. Et l'idée de cette émission, c'est de relayer les infos de ce qui se passe à l'intérieur et aussi à l'extérieur pour pouvoir créer des solidarités et renforcer les luttes contre la prison et contre tout ce qui nous enferme. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va parler principalement de la circulaire Taubira qui est sortie au mois de septembre. Donc on va en faire une petite présentation et analyse critique. Et puis après, on va parler un petit peu d'un décès qui a eu lieu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Et on va donner aussi quelques nouvelles du centre de détention de Roanne. Ces deux dernières informations, on va en parler au travers d'interviews. Voilà, on va commencer par cette fameuse circulaire.
Donc nous, on voulait vous reparler de cette circulaire dont on vous avait un petit peu parlé pour l'analyser un peu plus en profondeur. Alors, pour replacer un petit peu, cette circulaire, donc, elle donne les grandes orientations de la politique judiciaire de la nouvelle ministre de la Justice, Christiane Taubira. Et elle est sortie donc, le 19 septembre et elle s'est fait attendre un petit peu longuement, ce qui a dû contribuer au fait que sa réception dans les médias a été très importante et elle a été beaucoup discutée. Notamment, ce qu'on a pu entendre dessus, c'était que cette circulaire, cette politique judiciaire présentée était en rupture avec le tout carcéral qui avait pu caractériser les années précédentes. Et donc, nous, on voudrait commencer par replacer ça dans un contexte parce que, en fait, il y a certes des différences avec les lignes politiques des prédécesseurs de Taubira, mais dans l'absolu, cette circulaire, elle s'inscrit pas du tout dans une idée anticarcérale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder plus en détail les propositions et on va essayer de voir un petit peu les impacts véritables que peuvent avoir ces propositions, plutôt que de s'attacher juste aux effets d'annonce. Alors, on ne peut pas savoir comment ça va être appliqué, puisque ça reste un texte très théorique et très vague. Et on ne veut pas anticiper, mais par contre, nous, on se propose d'éclairer un petit peu ces propositions en les recontextualisant par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle. Et du coup, ça nous donne aussi l'occasion de faire le point sur le fonctionnement de la justice sur certains points précis. Et donc ça va nous permettre d'avoir une idée plus précise de ce qui peut changer, ce qui est dans quel sens et quelle marge de manœuvre il y a pour qu'il y ait des changements. Ce qui est intéressant de préciser aussi sur cette circulaire, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont sous-entendues. En fait, il y a beaucoup de propositions qui sont hyper larges et qui peuvent paraître complètement anodines. Mais en fait, c'est toujours à mettre en miroir avec la politique des années précédentes. Et donc, par exemple, on retrouve beaucoup l'idée d'avoir des délais raisonnables pour l'exécution de la justice, etc. Et ben ça, bon, c'est un principe fondamental du droit. Mais en fait, ça veut aussi dire qu'on n'est plus dans une logique d'accélération de la marche de la justice comme on avait pu l'être sous Sarkozy, avec notamment les comparutions immédiates, etc. Globalement, les grands axes qui nous a paru important de relever et qu'on ne va pas forcément développer ici, c'est un retour de la spécificité d'une justice pour les mineurs. La fin de l'intervention directe et individuelle de la ministre auprès des procureurs et des parquets, l'incarcération comme dernier recours et l'individualisation des traitements et des jugements. Tout ça, là, c'est ce qui est annoncé. C'est pas ce qui va être mis en place concrètement, hein. C'est vraiment comment c'est présenté. Moi, en tout cas, ce qui m'a paru important de souligner, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'individualisation qui est un des grands principes de la justice à la base, mais qui là est très appuyé dans cette circulaire. Et donc, c'est une justice qui rompt avec le systématisme auquel le gouvernement précédent avait l'air de tenir beaucoup. Et par contre, qui est balancé par donc un renforcement de tout l'aspect enquête de personnalité, contrôle social, de savoir si on est bien intégré, etc. Ça, on va revenir un peu dessus parce qu'on va parler donc de plusieurs points, de cette idée d'individualisation du traitement des dossiers, de comment est traitée la récidive, de l'aménagement des peines et de la place des victimes dans le système judiciaire.
Et du coup, on va commencer tout de suite par parler de cette logique de individualisation des procédures judiciaires. Alors, c'est vraiment le principe qui est mis le plus en avant. C'est la première proposition qui est traitée, où donc la ministre dit « toute décision doit être individualisée ». Et donc elle s'adresse au personnel de justice en disant « vous vous attacherez à ce que vos décisions soient prises en considération des éléments de fait, du contexte et de la personnalité des mises en cause ». Je sais que certains outils favorisant l'individualisation demeurent encore insuffisants. Je m'emploierai dans les mois à venir à les renforcer. Alors du coup, ce qu'on avait envie de dire par rapport à ça, c'est de voir... alors déjà, de rappeler que cette logique d'individualisation, elle n'est pas du tout nouvelle et que c'est vraiment un truc qui existe depuis toujours dans le système judiciaire. Mais donc on avait envie de réfléchir à qu'est-ce qui existe déjà et du coup, qu'est-ce qui va pouvoir être renforcé, parce qu'elle dit que... elle va renforcer certains outils. Alors du coup, dans les outils qui existent déjà, il y a le STIC. Donc le STIC, c'est un système de traitement des informations constatées. Donc c'est un grand fichier national dans lequel sont recensées toutes les informations des personnes qui ont été prise à partie dans une enquête à un moment ou à un autre, que ce soit en tant que suspecte, que personne condamnée ou même que témoin. Et du coup, donc ce fichier-là, il recense plein d'informations sur plein de gens. La CNIL, donc, qui est censée protéger les droits aux libertés privées, là, elle a demandé à ce que les différentes fiches concernant les mêmes personnes ne soient jamais reliées et du coup, ce ne soit pas possible, quand on fait une enquête sur une personne, d'avoir accès à toutes ces fiches. Et du coup, et notamment, elle a précisé, notamment dans le cadre des enquêtes de personnalité. Donc ça, voilà, c'est pour le moment ce qui existe. Donc c'est un truc qui peut évoluer en fonction de ce que la ministre aura envie d'en faire. Un autre truc qui existe, c'est les enquêtes de personnalité. Donc ça, c'est fait généralement par les services de renseignement sur demande d'une autorité. Ça se transmet par des fiches qui sont communiquées aux autorités concernées et sur lesquelles le but, c'est de déterminer la personnalité de la personne, donc de connaître ses goûts, de connaître ses hobbies, ses comportements. Il y a différentes rubriques, donc l'état civil, la profession, l'environnement, et on peut trouver des mentions comme connu défavorablement de son entourage, alors allez savoir ce que ça veut dire, ou bien inconnu des services de police, ou voilà, ce genre d'informations un peu sur le comportement social de la personne concernée. Jusqu'à maintenant, ces démarches-là, ce n'est pas des choses qui sont réalisées dans des cadres judiciaires, c'est plus pour accéder à la fonction publique ou passer des concours ou des choses comme ça. Mais donc, c'est un outil qui existe et qui peut être amené à évoluer, quoi. Et ce qui existe, par contre, en termes d'enquête judiciaire, donc, c'est ce qu'on appelle le dossier de personnalité. Donc ça, c'est un dossier qui est réalisé par le juge d'instruction pendant donc, son instruction. En fait, il faut savoir que statutairement, donc, quand le juge d'instruction transmet son dossier, ce dossier contient 5 parties. Qu'on appelle des cotes, et donc la cote B, donc il y a la deuxième, c'est le dossier de personnalité dans lequel il y a le renseignement d'état civil de la personne, les extraits de casier judiciaire et également des notices de renseignement et des enquêtes de personnalité, donc qui reprennent certains des éléments qu'on a dit plus haut. Et un autre truc qui existe, c'est ce qu'on appelle le RRSE, donc c'est le recueil de renseignements socio-éducatifs. Ça, c'est dans le cadre des enquêtes pour les personnes mineures. C'est obligatoire de faire ce genre d'enquête quand une personne mineure passe en procédure pénale. Et donc ça, c'est un truc qui est réalisé par des travailleurs sociaux et qui reprend tout ce qui existe, tout ce qu'on sait de cette personne-là, son lien avec ses parents, si elle est suivie, qu'est-ce qu'elle est suivie, quels sont ses comportements. Et donc ça, c'est dans l'optique de mieux prendre en compte la personnalité de la personne pour pouvoir lui proposer des meilleures solutions éducatives, puisque un peu le principe de la justice des mineurs, c'est de proposer plutôt des solutions éducatives que de la répression, en tout cas dans les principes. Voilà, donc ça, c'est les différentes choses qui existent et donc qui sont des outils qui peuvent évoluer éventuellement, qui peuvent être entrecroisés pour justement favoriser un meilleur fichage des personnes. Et aussi, un des risques qu'on trouve dans ces enquêtes de personnalité, c'est que non seulement donc ça augmente la pression sociale de « il faut être un bon citoyen, il ne faut pas dévier » et tout ça, et qu'en plus, ça donne de plus en plus de marge aux travailleurs sociaux, aux psychiatres, aux experts, pour décider, en fait, décider de qu'est-ce qui est bon pour nous et de comment on nous remettre bien dans la norme.
Alors là, on va parler plutôt du traitement de la récidive et de la répression qui est plutôt tournée vers les personnes dites récidivistes. Alors, en fait, cette circulaire, elle revient en arrière un petit peu sur le principe des peines planchers et sur leur systématisme. Et par contre, on va voir qu'elle compense par une grande rigueur pour les personnes qui ont déjà plein de dossiers sur le dos. Alors, pour réexpliquer un petit peu les peines planchers, en fait, la loi du 10 août 2007 était une des lois phares de la réforme de la justice du dernier gouvernement et de la lutte contre la récidive. Et l'idée, c'était que quand on est en état de récidive, c'est-à-dire qu'on est jugé pour des faits similaires à des faits qui ont donné lieu à une première condamnation, il y avait une peine minimum que le juge devait systématiquement donner. Pour entrer un peu dans les détails, les juges, en fait, avaient la possibilité de contourner cette obligation en justifiant pourquoi, et notamment en donnant, en disant qu'il y avait des conditions exceptionnelles de réinsertion de la personne donc qui était jugée. Et donc voilà, en disant cette personne a des conditions exceptionnelles de réinsertion, donc je vais pas faire tomber la peine plancher. C'était une manière donc pour les juges et les magistrats qui étaient contre ce systématisme, cet automatisme qu'on leur imposait, de contourner ces peines planchers. Et du coup, quand la ministre s'était rendue compte de ça, elle avait fait passer en 2008 une circulaire pour demander au parquet, donc au procureur, de faire systématiquement appel lorsque les peines planchers n'étaient pas données. Donc, ce qui réduisait grandement la possibilité pour les juges de contourner, de ne pas donner les peines planchers. Et ça les obligeait à donner des très grosses garanties sur cette idée de conditions exceptionnelles de réinsertion des personnes. Alors, aujourd'hui, là, avec cette circulaire, cette consigne a changé. Donc, les parquets n'ont plus ordre de faire systématiquement appel. Donc, ça redonne la possibilité aux juges de contourner les peines planchers. Et donc, ça fait un peu l'effet que la ministre veut donner une image d'une justice plus réfléchie. Donc, toujours dans cette idée d'individualisation des peines, avec un fonctionnement moins automatique. C'est certainement une façon de se remettre toute la magistrature un peu plus dans la poche. Et par contre, il faut souligner, c'est ce qui arrive un peu à la fin de la circulaire, qu'elle reste dans une optique de répression très très forte de la récidive. En fait, ça fait un peu comme si elle compensait, elle lâche... Sur la circulaire, là, il y a tout plein de grands mots comme aménagement des peines, etc. Et que par contre, quand on arrive à la fin, on arrive sur la catégorie délinquant récidiviste. Et alors là, il n'y a plus aucune clémence ou quoi que ce soit, puisque on n'est plus du tout dans la demande de peine alternative. Au contraire, elle demande carrément au procureur de vraiment se renseigner sur tout ce qui est en cours comme procédure judiciaire quand il y a des personnes récidivistes, de veiller à ce qu'on soit bien au courant de toutes les peines non exécutées et de bien veiller à ce que tout soit bien respecté par les personnes qui sont jugées. Et que si cette personne n'a pas, si les condamnés n'ont pas respecté leurs obligations des suivis sociaux judiciaires, etc., elle demande au procureur de requérir à la mise exécution de la peine d'emprisonnement encourue. Donc là, on n'est plus du tout dans une optique d'aménagement de peine ou d'incarcération en dernier recours. Donc voilà, c'était pour souligner que sur la récidive, faut pas se tromper quand on voit qu'elle relâche un peu sur les peines planchers, parce que là, en fait, ça va être un peu plus t'es déjà connu du système judiciaire, plus tu vas prendre cher et on va faire tomber tout ce qu'on peut pour amener à une incarcération.
Donc en fait, on va dire deux mots sur le principe des aménagements de peine, donc qui est pas mal mis en avant dans cette circulaire. Sauf qu'en vrai, ce principe, il est censé être la priorité déjà depuis 2009. Et puis on voit bien que dans les faits, ce n'est pas le cas. Déjà parce qu'il y a toujours des situations pour lesquelles la loi, elle ne s'appliquerait pas. Aussi parce que les procédures, elles sont super longues. C'est-à-dire les procédures quand il faut réunir toutes les pièces pour faire une demande d'aménagement de peine ou de conditionnel. Et aussi parce que assez souvent les juges d'application des peines ne veulent pas entre guillemets prendre de risques en laissant des personnes qui ont des condamnations dehors. Et voilà, donc tout ça pour dire que soi-disant les aménagements de peine, ça devrait déjà être assez courant maintenant, et on voit bien que c'est pas le cas. Donc là, cette circulaire, elle insiste sur les procédures simplifiées d'aménagement de peine. Et en l'occurrence, on a quelques chiffres qui sont sur un document du Sénat, le site internet du Sénat, qui dit qu'en 2011, sur 18 800 dossiers qui ont été traités par les SPIP, donc c'est les travailleurs sociaux de la tôle qui s'occupent de la réinsertion, donc dans le cadre des procédures simplifiées d'aménagement de peine, il y a seulement 2300 dossiers qui ont fait l'objet d'une proposition d'aménagement de peine au parquet. Et sur ces dossiers, il y a seulement 820 mesures qui ont été accordées. Donc on voit en fait que c'est vraiment que dalle. Et puis ensuite, il faut savoir que pendant la détention, des peines antérieures qui tomberaient pour des faits qui ont été commis avant cette période de détention, ou alors par rapport à des faits qui surviennent au cours de la détention. Des condamnations qui arrivent à ce moment-là, elles repoussent la date de sortie et les possibilités d'aménagement de peine, d'une part, et que d'autre part, au sujet de ces fameux aménagements de peine, en fait, concrètement, il s'agit de mesures de contrôle à l'extérieur qui sont extrêmement contraignantes. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, si ces mesures de contrôle, elles ne sont pas respectées, ça conduit à une incarcération. En plus, au-delà de ça, il y a à nouveau la prévision de la construction de nouvelles places de prison. Donc, ça montre bien que dans les faits, ce qui est prévu, c'est à nouveau, c'est de continuer ce qui existe déjà, en fait, de coller les gens en tôle et puis basta. Et que tout ça, ça ressemble beaucoup à du baratin.
Voilà, et alors, puisqu'on parle de baratin, on va enchaîner sur cette notion qui est une nouvelle fois mise en avant. D'avoir une attention particulière à la situation des victimes, c'est-à-dire de vraiment donner plus de place aux victimes dans les procédures judiciaires. Notamment les propositions qui sont faites, c'est de mettre en place des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux, aussi dans les lieux de police, de faire en sorte de visibiliser vraiment les associations d'aide aux victimes, de les soutenir financièrement, mais ce qui se fait déjà. Et aussi de faire en sorte que les victimes soient indemnisées vraiment le plus rapidement possible. Et du coup, on avait aussi un peu envie de s'interroger sur d'où vient cette préoccupation au statut des victimes. Alors, il faut savoir que c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, ça date des années 80, puisque à l'époque, le pouvoir socialiste nouvellement en place s'appuie sur le réseau des associations d'aide aux victimes qui sont regroupées au niveau national en 83 et qui sont soutenues et financées par les pouvoirs publics. Et en fait, tout ça s'inscrit dans des évolutions sociales plus larges, puisque depuis une cinquantaine d'années, il y a le développement de ce qu'on appelle la victimologie, donc qui est associée à la criminologie, et qui a pour but de s'intéresser à la victime en tant que partie prenante d'une situation de conflit, donc une infraction, un délit ou un crime, et pas seulement à la personne délinquante. Donc comme ça, ça peut sembler bien joli et intéressant, sauf qu'en fait, ça reflète plein de sous-entendus assez craignos, et alors notamment le fait de désigner la victime comme une catégorie homogène de personnes, sans se poser la question de savoir de victime de quoi, victime pourquoi. On traite de la même manière une victime de violence sexuelle ou une victime d'un cambriolage ou d'une défamation. Et en plus, ce statut de victime-là, il justifie l'emprise de l'État sur toutes les procédures grâce au développement de thèses psychologisantes, puisque la théorie dominante dans le milieu judiciaire, c'est... qu'une victime, donc, qui est par définition impuissante à penser et à agir par elle-même puisqu'elle est traumatisée et en situation de faiblesse, elle a besoin de la reconnaissance et de l'action de l'État pour obtenir une réparation, sous-entendu une réparation égale une punition de l'auteur de l'acte. Donc il y a plein de choses là-dedans qui nous paraissent critiquables. D'abord ce statut de victime traumatisée qui enferme les personnes dans un rôle complètement passif dans lequel la seule action proposée ou imposée, c'est le dépôt de plainte et qu'après c'est l'État qui gère. Et en gros, on enferme les personnes dans un statut complètement passif qui les dépossède de moyens d'action ou de réflexion personnelle. Ensuite, il y a la question de la reconnaissance. On nous fait croire, enquête psychologique bidon à l'appui, que la victime, pour dépasser son traumatisme et reconquérir son autonomie, a besoin d'avoir une reconnaissance institutionnelle. Alors que souvent, les soutiens, les pistes de réparation ou les besoins de reconnaissance, c'est plutôt dans notre entourage proche qu'on les cherche, plus que dans une institution hyper froide et déconnectée. Et d'ailleurs, les mêmes enquêtes psychologisantes montrent que souvent, la réponse institutionnelle ne correspond pas aux attentes des victimes. On a envie de dire forcément. Et puis aussi la question de la réparation-punition qui est à la base de notre système judiciaire. L'idée sous-jacente, c'est de dire que en fait, si on punit les auteurs d'infractions, c'est pas seulement parce qu'ils ont dévié par rapport aux normes de la société, mais c'est aussi pour le rétablissement psychologique personnel des victimes. Donc la justice, en plus d'être le garant de l'ordre social, devient une institution aussi psychologique. Il faut non seulement soigner les coupables, mais aussi participer au rétablissement psychologique des victimes. Donc sur cette question-là, c'est un peu comme sur la question de l'individualisation des peines. C'est une dérive psychologisante de plus en plus forte, car au final, tout ça, c'est quand même pour notre bien, selon eux. Et au passage, ça évite de se poser des questions en termes de classe sociale, puisqu'on parle que des individus, victimes ou coupables. Et que la justice intervient en fait pour gérer des conflits entre individus. Mais il ne faut pas quand même oublier que ce système judiciaire, c'est aussi une logique de justice de classe, que c'est majoritairement les pauvres, les personnes racisées, les jeunes des quartiers, ou toutes les catégories de population qui ne rentrent pas dans le moule du pouvoir, qui font les frais de cette justice. Alors forcément, les agents du système judiciaire, ils vont avoir plus de facilité à se placer du côté des victimes de leur propre classe sociale que de celui des coupables, qui très souvent sont renvoyés à une image de barbare, de voyou, de monstre. Et du coup, au final, insister sur ce statut de victime et le mettre tellement en avant, ça contribue aussi à diffuser la figure opposée du bourreau, du monstre dangereux, qui se résume souvent, suivant les fois, aux violeurs de ruelles sombres, aux pédophiles en série, aux terroristes islamistes, aux voyous des quartiers. Et des fois, c'est des petites images qui se nourrissent l'une l'autre. Voilà, et du coup, en fait, tout ça, ça permet aussi de créer de la peur, des personnages extraordinaires. Et en fait, finalement, ça ne sert qu'à justifier le rôle de l'État et de ses agents, et les politiques répressives de plus en plus resserrées.
Et du coup, moi, les mots que j'avais envie de mettre là-dessus un peu, c'était de dire que, ben, en fait, ça décrit vraiment une instrumentalisation par le pouvoir du concept de victime, et que c'est vraiment ça, on sert du concept de victime pour faire passer, justifier ben, des politiques répressives et tout ce qu'on veut après. On va enchaîner avec une musique.
Trois coups de violon qui t'interpellent comme un coup de pelle. Après ta chute, un goût de terre. Écoute frère, ces lyriques sont à bout de nerfs. Et c'est le frisson quand ça te parle, y'a des risques. C'est une prison qui t'enferme, t'enterre. Tu l'entends, c'est elle quand tu gamberges. Elle t'empère comme un G.I. en perme. Et sans permis, elle tire de façon perverse. Une vermine que j'endors pas à la verveine. Je suis verni les jours où elle sort à peine. Je m'en rappelle un peu plus quand je suis rabat. C'est normal, j'ai grandi à la rabatterie. Une sale blague qui fait plus marrer la patrie. Ces enfoirés voudraient tous nous voir à quatre pattes. S'accaparer nos cerveaux pour servir toutes ces années d'études pour une maîtrise en serpillière. Si c'est le prix à payer, laissez-moi filer et qu'ils aillent tous se faire. Et ma méthode connaît ses raisons. Un exode vers une triste oraison. Du ras-le-bol dès les premières saisons. Des paroles qui touchent pas l'horizon. Un exemple de parcours sans prison, mais sous pression. Maudite est ma raison. Je ne crois plus en ce monde lorsque j'opère sur un coup de tête. Après l'échec, un doute bête. Et tous payent ou finissent sur la bouteille ou sur le pilon. On se rattrape sur les vis. C'est un filon qui sans cesse engraine et s'en prend au même que les gens gerbent. Et j'en gerbe comme un keuf qui prend du ferme. Et sans faire vite, j'écris des chansons perplexes. Une perquise de mon sort sur cette terre ferme. Je suis ennemi du four, je sors à peine. En rappel, en costume, costard, cravate. Sans format, j'ai grandi selon mes logiques. Mes bonnes blagues qui font bien marrer la fratrie. Et les soirées j'allais galérer avec quatre potes. Ça sape parler de ghetto et d'avenir. Les deux s'annulent quand ils se touchent sans aucun mystère. J'ai appris à me frayer un chemin sans piler. Donc ils aillent tous se faire. Et ma méthode connaît ses raisons. Un exode vers une triste oraison. Du ras-le-bol dès les premières saisons. Des paroles qui touchent pas l'horizon. Un exemple de parcours sans prison, mais sous pression. Maudite est ma raison. J'ai pas pris le melon, pas plus que je pète au-dessus de mes dettes. Mes sons, c'est un coup de maître. Et je goûte telle la clique du boomcamp. Eh fiston, me regarde pas où tu glisses. J'ai des questions qui s'en mêlent entre elles. Depuis enfant, j'excelle dans la migraine. Elle m'hiberne comme un ours en hiver. Et ça se termine à dormir sur le terre-terre. Bien terni par ce son qui flingue la fête. Je suis certain d'histoire qui pue la défaite. Ça marcelle un peu comme une rafale. Et je dors mal et je transpire des putains de bad trips. Une cymbale qui fait plus sonner la batterie. Mais j'emploierai toutes les astuces pour faire la grasse mat. À part jacter sur le ghetto et dormir, j'ai pas mis les thunes de côté pour monter un business. Mais c'est le prix à payer pour être inspiré. Donc que j'aille me faire. Et ma méthode connaît ses raisons. Un exode vers une triste oraison. Du ras-le-bol dès les premières saisons. Des paroles qui touchent pas l'horizon. Un exemple de parcours sans prison, mais sous pression. Maudite est ma raison. Maudite est ma raison. Méditer sur son sort. Maudite est pas raison. Mériter son sort.
Voilà, c'était un morceau de Nivek qui s'appelle Raison Maudite et c'est issu de la Very Bad Play.
Alors là, on va enchaîner. En fait, on va revenir un peu sur quelque chose dont on avait parlé le mois dernier. C'est le décès d'un prisonnier au centre de détention de Bourg-en-Bresse, C'est donc une info qui était parue et qui peut se retrouver sur le site internet Rebellion. Donc http://rebellion.info. Et en fait, on va écouter une interview qui a été réalisée avec la compagne du prisonnier qui est décédé, qui s'appelle Papy. Et elle nous raconte un peu plus précisément comment les choses se sont passées.
Je suis Céline, la femme de Papy, qui était incarcérée au centre de Bourg-en-Bresse. Il avait 33 ans et dans la nuit du 1er au 2 septembre, il est décédé d'une crise cardiaque. Après s'être plaint à plusieurs reprises de douleurs dans la poitrine, au cours de la journée et les jours d'avant, surveillants et brigadiers n'ont pas pris ces plaintes en compte. C'est-à-dire qu'ils ont émis un diagnostic que s'il parlait, c'est qu'il n'était pas vraiment malade. Grosse erreur, je pense, car on ne donne pas 3 efferalgans à un prisonnier pour le soigner de douleurs dans la poitrine. Surtout qu'il était connu comme ayant des problèmes cardiaques depuis tout petit. Il a ignoré sa douleur pendant la soirée. Donc il est allé prendre sa douche. Ensuite, il a dit à son pote qu'il était fatigué et qu'il allait se coucher. Et quand il s'est couché, il disait à son co-détenu, Nono, qu'il avait comme un noyau du côté droit quand il se mettait du côté droit, et quand il allait du côté gauche, ça allait un petit peu mieux. Il a posé ses lunettes, il s'est endormi, et pas loin de 1h du matin, Nono a entendu une respiration bizarre. D'ailleurs, au départ, il croyait qu'il faisait exprès pour le taquiner. Et quand il a ouvert les yeux, il a allumé la lumière, il s'était redressé, et en fait, il était en train de mourir. Il a vite appelé les surveillants, qui apparemment ont mis un certain temps à venir, parce que moi, on m'a dit qu'ils ont mis 3 minutes. À mon avis, s'ils avaient mis 3 minutes, ce ne serait pas passé comme ça. Ils sont venus, oui, ils lui ont fait un massage cardiaque, mais pas de premier secours, dans le sens, pas de défibrillateur, pas de piqûre d'adrénaline, pas de médecin de garde. Donc en fait, pour moi, ils l'ont laissé mourir. Ils l'ont laissé mourir parce que ils n'ont pas pris ses plaintes en compte l'après-midi, alors que ce n'était pas quelqu'un qui était connu de l'infirmerie. Ils l'ont laissé mourir parce qu'ils ont estimé qu'il allait bien, alors que il souffrait, que c'était pas quelqu'un d'habitué de l'infirmerie, et que en fait que pour eux c'était qu'un numéro, quoi. Ce que je ressens, c'est que pour eux c'était qu'un numéro, et que depuis tout ça, moi d'abord on m'a dit qu'il y aurait une autopsie, il n'y a pas eu d'autopsie. Après, ils savaient pas de quoi il était mort, et finalement c'est une crise cardiaque. Donc si c'est une crise cardiaque, pourquoi tu l'as pas aidé avant? Et voilà, quoi, ils l'ont laissé crever comme un chien, tout simplement. Et je pense qu'il y a des gros problèmes avec les prisons, et que si ça pouvait changer un petit peu de par ma procédure, de par ce que je dis, ma voix ou celle d'autres détenus, ça serait bien qu'ils n'hésitent pas à parler, parce que je sais que quand t'es en prison, t'as toujours peur de parler, mais je pense que là, il faut que ça change. Tu mérites pas que ça soit à 33, à 50 ou à 60 ans de mourir en prison sous prétexte que t'es incarcéré, quoi. T'es un être humain avant tout. On te prend ta liberté, on n'a pas à te prendre ta vie. Et je pense que la prison en est tout à fait consciente, car depuis qu'il s'est passé tout ça, ils sont très prévenants avec moi et très gentils. Ils m'ont reçu, ils m'ont écouté. Dès que je téléphone, ils sont à ma disposition. Alors que quand il était incarcéré de façon normale, pour avoir, par exemple, ne serait-ce que le secrétariat de direction, il fallait attendre des heures et on n'était pas toujours pris au sérieux. Que je suis une personne pugnace, je ne lâcherai pas l'affaire et que j'irai jusqu'au bout. Mais si ça doit prendre 10 ans, 20 ans, je passerai par les associations qu'il faut. J'ai pris un avocat et que je ne lâcherai pas l'affaire et que sa mort, il ne sera pas mort en vain. Moi, je veux que dans les prisons, ça change pour lui et pour ses enfants. Peut-être qu'un jour, il y aura des premiers secours en prison et un médecin de garde, et que ça sera grâce à lui et grâce aux démarches qu'on va faire.
Les secours, ils ont mis super longtemps à venir.
Apparemment, 40 minutes après, ils sont arrivés, ouais.
Tu parlais aussi des feralgans qui ont été donnés. Lui, il a été vu par d'autres détenus avant.
Il a été vu par les détenus qui étaient avec lui, et ils l'ont tous trouvé dans un état... qu'il était vraiment pas bien. Il n'arrêtait pas de se plaindre pendant des heures de douleur à la poitrine. Il en a référé à une surveillante qui en a référé à un brigadier qui a émis un diagnostic. Et de par là, il a eu 3 efferalgans. Donc, excusez-moi, mais efferalgans, c'est maux de tête, le rhume, et pas de douleur dans la poitrine. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a eu, quoi. Après, il a voulu aller à l'hôpital. On lui a dit que son état n'était pas assez grave pour y aller, et que, comme autre prétexte, qu'ils n'étaient pas assez nombreux en effectif le week-end pour faire un transfert, qu'il aurait rendez-vous lundi matin. Il est mort le samedi dans la nuit.
Du coup, c'est un brigadier qui a décidé de lui-même que son état n'était pas grave.
Voilà, apparemment, c'est ce qui s'est passé. Il a décidé que son état n'était pas grave et que ça nécessitait pas d'aller à l'hôpital ou d'être pris en charge par un médecin de garde. Je suis convaincue que s'il avait été à l'hôpital et qu'on lui avait fait un électrocardiogramme, ils auraient vu que c'était l'attaque qui arrivait. Donc, ou t'es brigadier ou t'es médecin, mais t'es pas les deux à la fois, quoi. Après, il faut choisir ta vocation. Et là, à mon avis, il y a eu grosse erreur. le brigadier a fait une erreur, mais quand on réfère à la sous-direction et à la direction, là aussi, il y a eu une erreur.
Eux, en plus, tu disais qu'après, ils ont essayé de faire les gentils avec toi pour rattraper le coup un peu.
Alors, le centre pénitentiaire m'a reçu de façon très correcte, même trop correcte peut-être. J'ai eu la chance de pouvoir voir son co-détenu parce que j'ai insisté que je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Ils ont été très gentils avec moi, où les détenus ont fait une collecte pour m'aider pour les obsèques. Ils m'ont téléphoné tout de suite. Avec le chèque que j'ai reçu de la collecte des détenus, ils m'ont mis une lettre de condoléances. C'est un peu trop tard, j'ai envie de dire. C'est quand même un milieu carcéral, un milieu assez difficile que je connais depuis 10 ans. Et j'ai trouvé que là, leur gentillesse était extrême. Alors après, paranoïa ou pas, je trouve ça... Je sais pas. Par rapport à comment on m'a prévenu et comment on a agi avec moi après, ça aussi c'est un contraste. Car on m'a téléphoné, il était exactement 6h35 du matin le dimanche. Et on m'a dit mot pour mot, vous êtes la compagne de Monsieur Lavanchy. Oui, malgré tous nos efforts, il est décédé. Donc à ce moment-là, vous comprenez pas. Vous avez un peu des questions qui viennent et qui viennent pas. C'est-à-dire que moi, je disais, mais de quoi, mais pourquoi et comment? Oui, on peut rien vous dire de plus. Une autopsie doit être faite. C'est nous qu'on vous préviendra dans les jours à venir. C'était relativement froid quand même. Après, quand j'ai repris mes esprits, je leur ai téléphoné. Elle m'a dit mot pour mot, parce que j'avais quand même besoin de réponse à mes questions, qu'il n'était, il s'était pas pendu et qu'il n'avait pas de coups sur le corps. J'aurais pu trouver d'autres mots, je pense. Apparemment, il va avoir une autopsie qui n'a jamais eu lieu, hein, qui a été décidée après, donc je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi non plus. Et finalement, j'ai réussi à le voir le mardi, alors qu'à la base, je n'avais pas le droit de le voir pendant 3 jours. Donc ça a été, enfin, l'annonce a été violente et puis aussi un peu incompréhensible au niveau de l'autopsie. On n'a pas le droit de le voir pendant 3 jours et puis finalement, il n'y a pas d'autopsie. Et puis finalement, on pouvait le voir. Enfin, tout ça était un petit peu bizarre. Il n'avait pas de douleur dans la poitrine. Mais il est mort d'une crise cardiaque. Donc finalement, on ne fait pas d'autopsie. Donc tout ça est un peu brouillon. Elle dit qu'il est mort de sa propre mort. Donc une crise cardiaque. Alors la directrice m'a dit le mardi que, soi-disant, il se plaignait du ventre. Mais ce n'est pas vrai, il se plaignait de la poitrine.
Tu disais aussi que dans son dossier médical, c'était spécifié en fait, qu'il avait des fragilités et que voilà. Du coup, ils auraient dû être super attentifs.
Étant donné qu'il a déjà été jugé quand il est arrivé à Bourg-en-Bresse, vous arrivez avec un dossier de détenu, avec un suivi. Et dans ses jugements et dans son dossier, il était stipulé qu'il est né avec un problème cardiaque. Ils ont pris ça à la légère. Enfin, là aussi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, quand tu sais que quelqu'un est cardiaque et dit qu'il a des douleurs dans la poitrine, tu ne le prends pas au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est un numéro d'écrou. Ça, non, ce n'est pas normal. Moi, si je vais chez mon docteur et que je lui dis que j'ai mal aux dents, il va regarder mes dents. Donc si on te dit que t'as mal au cœur, tu prends au sérieux, tu donnes pas trop efféralement pour les maux de tête.
Moi, ce que je trouve important quand même, c'est qu'il est décédé à 1h du matin. Il a fallu qu'elle attende 2 jours avant de le voir. Je veux dire, chez n'importe qui, on peut aller voir. On peut aller voir les gens qu'on aime qui viennent de décéder dans les heures qui suivent, quoi.
Puis il fallait pas en
alors
parler.
Qu'il a été au funérarium, ouais. Mais vite fait, bien fait. Hein. Enfin,
À 3 heures
du matin.
Ils sont venus le chercher à 3 heures. Et puis moi, quand on m'a averti, il fallait prévenir personne. Pour l'instant, je n'avais aucun élément. Fallait que j'attende qu'il y ait une autopsie, qui finalement n'a pas eu lieu. Donc si elle n'a pas eu lieu, si 4 heures après, ils savaient qu'il n'y a pas eu lieu l'autopsie, pourquoi je n'avais pas le droit de le voir? Il a fallu que ce soit moi qui téléphone. Je veux dire, on ne m'a pas rappelé pour me dire, c'est bon, vous pouvez y aller. Par exemple, lundi, puisque lundi, les pompes funèbres m'ont dit, enfin, le directeur des pompes funèbres m'a dit de sa propre bouche que le lundi matin, il savait déjà qu'il n'y aurait pas d'autopsie. Donc pourquoi on ne m'a pas appelé le lundi pour me dire c'est bon, vous pouvez y aller le voir? C'est à moi, c'était à moi de faire les démarches. À moi d'y aller, à moi de téléphoner. Donc au début, je ne pouvais ni prévenir ni famille ni personne parce qu'on ne savait pas, il ne fallait pas en parler. Il y avait tout un truc. Nounou m'a surtout parlé du fait que. Ben, quand l'après-midi il s'est plaint et que Nounou est revenu de son parloir et qu'il a vu qu'il se tenait la tête sur la table et la poitrine, les surveillants sont restés avec eux, donc ils avaient quand même un doute sur son état de santé pour être à côté d'eux. Et quand ils ont fermé la porte exactement à 18h37, Nounou leur a dit « Mais écoutez, là il va vraiment pas bien, quoi. » Un surveillant ou brigadier, je ne sais pas, aurait dit « Ouais, de toute façon vous êtes deux, si ton pote il va pas bien, tu t'en occuperas. » Quand ils sont venus justement pour lui faire le massage cardiaque, puis que bon, après il est décédé et tout, Nounou lui a dit, t'as vu comment je m'en suis bien occupée? Du coup, maintenant, il est décédé, quoi.
Qui a fait le massage cardiaque?
Les surveillants. Parce que les surveillants, quand ils sont arrivés, ils ont fait un massage cardiaque, donc pas de matériel ni rien, donc ils ont fait un massage cardiaque à quelqu'un qui est déjà mort, je vois pas l'intérêt. Mais apparemment, ils seraient pas venus dans les 3 minutes comme moi ils m'ont dit. Parce que moi j'ai un surveillant qui est venu me voir, me présentant ses condoléances, qui m'a dit on a mis 3 minutes pour venir. Et ça, j'y crois pas du tout. Mais alors pas du tout. Déjà, s'ils avaient agi l'après-midi, on n'en serait pas là. Et puis le soir, à mon avis, ils sont pas venus en 3 minutes. Donc, moi, Nono, il m'a... Enfin, Nono, et puis apparemment, d'après les dires de d'autres détenus qui ont parlé avec lui, ça a été pris très, très, très à la légère, quoi.
Voilà, du coup, c'est une histoire bien horrible, en fait, qui s'est passée et qui nous met bien en colère. Et on a envie que ces informations-là, elles circulent. On a envie de pouvoir en faire quelque chose. Parce qu'en fait c'est juste trop dégueulasse en fait qu'il se passe des trucs comme ça et que ce soit comme si tout était normal. Enfin bref, voilà. Donc on continuera à faire suivre les infos qu'on aura par rapport à cette histoire, par rapport à d'autres. Et on va enchaîner là malheureusement parce qu'on est un peu pressé par le temps. Avec une autre interview qui a été réalisée avec une personne qui est sortie récemment du centre de détention de Rouen et qui reparle un peu du moment de blocage de promenade qui a eu lieu cet été. Voilà. Alors salut, tu vas nous parler un petit peu des événements qui se sont passés récemment au centre de détention de Rouen. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de qu'est-ce que c'était le climat et un peu les trucs qui s'étaient passés avant le moment du blocage qu'il y a eu pendant l'été?
En fait, c'est avant le blocage, ils nous avaient retiré les promenades. Ils nous ont retiré un tour de promenade le matin, un tour de promenade l'après-midi. Après, ils ont mis que les mecs du zéro fermé, ils nous ont mis que entre nous. Ouais, genre, on était 4-5, zéro fermé, ils nous ont mis que entre nous. Il y avait l'office, c'est le ramadan qui allait commencer. Comme par là, ils ont fait ça juste avant le ramadan. Donc ça a commencé à mettre un climat de tension, tu vois. Tout ça a commencé par des mots pour dire qu'on s'est plaint, quoi. À la directrice, au chef, au lieutenant et tout. Ça n'a rien passé du tout, ça n'a rien changé. Ça fait que nous, après, on a décidé de bloquer.
Est-ce que tu peux parler de comment ça s'est passé justement le moment du blocage?
Juste avant le moment du blocage. Je me suis réveillé le matin. Et moi, t'as vu, moi, je savais pas tout ça, des changements de trucs et tout. Je venais sortir du mitard. C'est-à-dire, je me réveille le matin. Et je vais pour aller en promenade à 10h. Et j'attends, samedi, il n'y a pas de promenade. Je dis comment ça? Au début, je pensais que c'était pour moi qu'il n'y avait pas de promenade. Et après, ça m'a dit, à la fenêtre, j'appelle, ça me dit, ouais, non, ils viennent de changer complètement le truc des promenades et tout. Bref, on va au sport l'après-midi. Et moi, j'ai dit, c'est bon, j'ai dit, je vais bloquer. J'ai commencé à dire aux gens, à dire à tout le monde, on bloque. Au début, il y avait du monde qui était chaud. Après, on s'est retrouvé à... Bref, il y en a 4-5 qui sont restés avec moi et qui, voilà, ils sont restés là. Et après, voilà, hein, quand on a bloqué, ils sont arrivés, il a dit pourquoi, le lieutenant est arrivé, il a dit pourquoi tu bloques. Je suis allé voir, moi j'ai parlé avec lui, je lui ai dit ouais, on bloque parce que vous nous avez niqué les promenades, vous nous avez niqué l'office, on peut pas faire à manger pendant le ramadan et tout. L'année dernière, c'était, on pouvait, tu vois, pourquoi cette année on peut pas. Ouais, il n'y a pas eu de sommation, il est venu, il nous a dit ça, il s'est barré, une demi-heure après, déjà tout s'est passé entre 17h30, la fin de la promenade, on est arrivé au mitard, même pas à 18h15 je crois. Ça veut dire en 1h15, ils sont venus, le temps déjà qu'ils nous attrapent tous. Ça a dû durer une demi-heure. Alors imagine-toi, ça a duré même pas une demi-heure qu'ils ont pas, ils ont même pas parlé, ils nous ont laissé tourner. Et après ils sont venus, ils nous ont chargés. Ils nous ont éclatés, ils sont venus. Après ils nous ont rentrés dans les box de fouilles. Ils nous ont rentrés là avec les menottes allongées comme ça, tu vois, on était. Bref, il y en a un, ils l'ont fait sortir de la promenade à poil, un vieux. Ils nous ont fait sortir de la promenade à poil, le dernier. Après, ils nous ont chargé au mitard comme des chiens. Ils nous ont ramené de la promenade au mitard direct. Arrivé au mitard, c'était... Et on a vu le lieutenant là-bas, tout ça. Et après, le médecin il est venu voir, mais il nous a vus. Il est resté derrière la grille. Il nous a dit, je sais pas quoi. Je l'ai même pas vraiment vu si on avait quelque chose ou quoi que ce soit. Moi, je disais, j'avais mal là, j'avais des traces et tout.
Parce qu'en fait, vous vous êtes fait taper dessus quand ils vous ont amené là-bas.
T'as vu, il y avait, on va dire, 50% des surveillants qui étaient là. Ils ont mis des coups, et 50% n'ont pas mis de coups. Et après, le pire, c'est quoi? C'est que t'as vu, moi, le surveillant qui est venu me charger, c'est celui qui a porté plainte contre moi. Alors que qui disait que je l'avais agressé, alors je l'avais pas agressé. Bref, et même ça, je me disais, putain, il l'a envoyé lui, tu vois, il l'a envoyé lui sur... Et comme par là, c'était lui qui me tenait ma tête, il me marchait sur la tête comme ça quand j'étais par terre en promenade, tu vois.
Quand vous étiez au mitard, après, il y avait deux équipes de surveillants qui se relayaient, dont une qui était particulièrement trash.
Ouais, ouais, il y en a une équipe de surveillants au mitard, elle nous mettait la trique, elle me ramenait au parloir une demi-heure en retard. Il y a un mec, celui qui était avec moi, il lui dit quoi, il avait le parloir avec ses parents. Il dit quoi, bah tu iras pas au parloir à cause du blocage que vous avez fait, nanana, t'as foutu la merde. Ils nous ont coupé l'eau, ils nous ont coupé l'allume-cigare, ils tapaient sur les portes pour nous réveiller. Bref, que notre...
Est-ce qu'il y a eu des suites, genre des plaintes ou des procès par rapport à ça?
Bah, il y a deux surveillants, ils ont porté plainte, mais moi j'ai pas eu de suite et il y en a un, il est sorti avant moi. Donc lui, je sais pas s'il a eu des suites, mais les deux autres qui étaient avec moi, qui sont encore en prison là, eux, c'est sûr, il n'y a pas de suite.
Quand il s'est passé ce truc-là, du coup, ça a été filmé par un téléphone portable et les infos, elles ont circulé un peu au dehors. Qu'est-ce que ça a changé, hein, le fait que ce soit su dehors?
Bah, au début, ça a changé qu'ils nous mettaient la trique, un peu plus. Qu'ils n'étaient pas contents, nanana. Mais après, genre quelques semaines après, bah, dès que ça a commencé à faire un peu plus de bruit, bah là, bah, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de jugement, qu'il n'y a pas eu de représailles, qu'il n'y a rien du tout. Parce que ça fait tellement de bruit que même eux, ils ne contrôlaient plus. Après, les surveillants, ils ont bloqué aussi. Après, c'était un peu plus dur, tu vois. Genre, il y a certains surveillants avec nous, ils étaient... Je sais pas, c'est des petits détails, tu vois, qui... Au quotidien, qui a des petits pics tous les jours qui font... T'as allongé, t'es sous la couette. Et y a le sport ou la promenade, t'es sous la couette. Bah, il va ouvrir, et il va voir, il va refermer direct. Et quand tu vas taper, il va dire, ah, mais tu dormais. Et sinon, le matin, quand il vient ouvrir la porte, il vient ouvrir doucement, il vient, il tape. Il met des gros coups, clac, 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 t'entends des bruits de malade avant qu'il ouvre ta porte. Esprit pour te réveiller, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que, bah voilà, c'est typique au quotidien. Au mitard, on n'avait aucune information. Au mitard, t'as vu le journal, ils sont obligés de nous le donner, le droit d'information. Et ça, c'est pire que couper l'eau ou que couper l'allume-cigarette. Quand c'était ces surveillants-là, jamais ils nous ramenaient le journal. Jamais, jamais. C'est-à-dire que tout ce qui se passait au début, tout ce qui est écrit sur le journal par rapport à cette histoire, ben nous, on était au courant de rien. Nous, c'est quand qu'on l'a su, la première fois qu'on a su que ça avait fait du bruit et que c'était sur Internet et tout, c'est quand on a reçu le courrier.
Et après, tu disais qu'il y a eu un moment où les surveillants, ils ont bloqué. Du coup, tu peux reparler un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là?
Bah, à ce moment-là, bah, c'est là où les surveillants du mitard, là, comme par hasard, on avait les deux. Bah, c'est là où ils ont vraiment fait les... Et qu'ils ont dit à mon pote, il avait parlé avec ses parents, ils lui ont dit... On ne ramènera pas au parloir, c'est de ta faute tout ce qui se passe, nanana. Là, un truc de fou. Bref, là c'était vraiment quand les soins ont bloqué, ils nous ont vraiment mis la trique atomique, les deux. Un truc de fou, là, c'était vraiment un truc de fou.
Là, en ce moment, c'est assez tendu, il y a eu plein de fouilles. Tu peux parler un peu plus de ce climat qu'il y a en ce moment?
Ben, y a un nouveau major qui est arrivé, ils ont changé le lieutenant. Avec toutes ces histoires qui s'est passées, genre ils ont voulu faire les mecs, ça a fait bouger quelque chose, genre ils ont changé le lieutenant. Du bâtiment D, là on a bloqué. Ils ont mis un mec, un major. Tous les jours il va faire une fouille, il va trouver tous les jours quelque chose. Genre, tous les jours, ces jours, il va casser les couilles. Genre on montre des petits trucs. Et genre il l'a fait à la dure quoi. D'habitude on reste un peu dans la rue posé, on fait pas de mal à personne, tu vois, on reste un peu dans la rue, on est zéro fermé. On reste dans la rue pour respirer un peu. Parce que dès qu'on...
Quand tu dis la rue, ça veut dire quoi?
Ça veut dire en sortant entre les deux bâtiments. Le bâtiment D, le bâtiment E, il y a une petite rue. Et bah là c'est... on se pose là des fois, tu vois. Et quand lui, maintenant qu'il est là, d'ailleurs tu te poses là, tu restes posé là-bas, bah, tu prends des rapports, trucs bidons comme ça, tu vois.
Tu peux expliquer ce que ça fait quand tu prends un rapport?
Bah, tu prends un rapport, si tu as de la chance, tu passes pas au prétoire. À partir du moment où tu passes au prétoire, même pour un rapport juste de comme je te dis, tu es resté dans la rue, tu as pris un rapport. Et bien juste pour ça, si pendant le prétoire, l'assesseur, c'est un surveillant qui t'aime pas, ben juste ça, il peut te mettre 5-6 jours de mitard. Gratuit, pour rien. Alors que tu es juste resté dans la rue. Après, ça dépend de l'assesseur. Tu vois ce que je veux dire? Que l'assesseur, si c'est un connard, ben, tu vas prendre. Si c'est pas un connard, ben, tu peux ne pas prendre.
Et là, du coup, concrètement, le fait qu'il y ait des fouilles comme ça, quasiment systématiques, ça veut dire qu'ils trouvent plein de trucs, qu'il y a plein de gens qui passent au prétoire, qui peuvent avoir des poursuites. Et au niveau du climat un peu général aussi, qu'est-ce que ça fait ?
Bah, ça met des tensions. Parce que les gens, ils sont plus tranquilles. Même quand t'as rien, t'es pas tranquille. Tension de malade, et plus ça avance, plus il y a des tensions. Et si ça continue comme ça, bah, ça va péter un jour là-bas.
Toi, entre le moment où t'es arrivé là-bas, à Rouen, et le moment où t'en es sorti, quelle évolution t'as vu ?
Moi, j'ai vu que je suis arrivé là-bas, j'étais au zéro. Fermé. Déjà, quand je suis arrivé aux arrivants, ils m'ont mis zéro fermé. Je suis monté au premier, parce qu'il n'y avait pas de rapport, rien du tout. Je me fais péter avec une puce. Et 2-3 joints. Ils me mettent au zéro. Un an et demi que j'ai fait là-bas, j'ai passé 10 mois en ferme. Et fermé, c'est comme la maison. C'est pas comme la maison d'arrêt, parce qu'il y a la maison d'arrêt. Tout le monde est comme toi. Mais là, t'as ceux d'au-dessus de toi, ils sont ouverts. Et toi, t'es en bas, t'es fermé, c'est encore pire. Et je comprends pas pourquoi ils font un CD pour mettre des gens enfermés. Si tu fais une connerie, tu vas au mitard. Alors quand tu sors du mitard, tu l'as payé ta connerie. Bah là c'est double peine. Ça veut dire que tu vas au mitard, tu payes ta connerie et en plus ils te mettent au zéro. Pendant 3 mois, tu dois te tenir bien pour pouvoir monter. Ouais, ils m'ont pris pour des enfants, des je sais pas quoi, tu vois, et bref.
Par rapport aux fouilles, comment ça se passe là-bas ?
Bah c'est toujours fouilles à corps là de chiens, ils nous mettent à poil. Voilà, c'est humiliant un peu, tu vois, à chaque fois, tu vas au parloir, tu vois ta famille, tu sais, quand tu vas revenir, ils vont te mettre à poil, ils vont te faire tourner, ils vont voir ton cul, ils te voient à poil, tu vois, c'est humiliant. Normalement, ça a été interdit, les fouilles à corps. Voilà. Normalement, ça a été interdit, les fouilles à corps, mais eux, ils continuent à les pratiquer, soi-disant, parce que de temps en temps, ils trouvent des trucs sur des gens. Truc de fou. Alors que pour leur sécurité, si soi-disant, c'est pour leur sécurité, je sais pas quoi, il y a cette sécurité au portique pour... tu vois ce que je veux dire.
Voilà, ça termine un peu abruptement. Encore une fois, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire sur ce qu'il raconte, en fait, de la même manière qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur l'interview qu'on a écoutée avant. Mais malheureusement, là, on est un peu pressé par le temps. En tout cas, c'est vraiment précieux, en fait, d'avoir ces infos-là, de comprendre un peu mieux comment ça se passe dedans. Et c'est aussi possible, en fait, on a pas mal relayé ce qui s'était passé à Rouen ces derniers mois, dans les précédentes émissions, par exemple. C'est possible d'avoir d'autres infos plus en détail sur ce dont il parle en chopant les émissions précédentes sur le blog. On donnera l'adresse après. Et justement, on va profiter de ça pour donner deux infos qu'on a trouvées dans le journal. Donc, des trucs qui se sont passés à Rouen au mois d'octobre. Et notamment concernant des projections, trois personnes qui ont été condamnées pour des projections, c'est-à-dire l'envoi de colis par-dessus les murs du centre de détention, qui ont été surpris par une patrouille de police. Donc envoi de colis à l'intention de personnes qui sont emprisonnées dedans. Donc ces trois personnes sont passées au tribunal pour ces faits. Et ont été condamnés par la justice, l'un pour une peine de 4 mois ferme, l'autre pour une peine de 6 mois ferme, et le troisième pour... en fait, il a eu une peine planchée et il a pris 4 ans ferme pour ces faits-là. Donc voilà, un peu en écho à ce qu'on racontait avant sur les peines planchées, les soi-disant aménagements de peine, etc. C'est une info qui nous donne bien les boules. Et toujours par rapport aux histoires de justice et de tribunal, le journal nous apprend que des bouteilles en plastique remplies de liquide inflammable et équipées d'un dispositif de mise à feu artisanal ont été retrouvées au mois d'octobre devant l'entrée du tribunal et devant la porte de sortie du tribunal de commerce, qu'un engin a fonctionné et pas l'autre, et que... cette tentative d'incendie fait suite aux tags visant un surveillant du centre de détention et une avocate qui ont été découverts sur le mur du tribunal le mardi 21 août dans la foulée d'incidents survenus au centre de détention de Rouen. Voilà, on voulait relayer ces informations qui participent de la lutte contre la prison. Alors, une petite précision concernant l'interview, la dernière interview. Il y a des bruits de cochons qu'on entend. En fait, ces bruits-là, ils sont mis à la place d'insultes qui ont été proférées, qui sont largement méritées, mais qu'on s'est dit que c'était plus simple de les remplacer par des bruits de porc. Curieux hasard. Et sinon, une petite brève aussi, qui nous a fait bien plaisir, c'est celle d'une évasion qui a eu lieu récemment, là, le 11 octobre. C'est un détenu qui était à la prison du Pontet, dans le Vaucluse, et qui avait une permission de sortie pour participer à un tournoi d'échecs, et qui en a profité pour partir en cavale. Et on lui souhaite bonne chance.
Et du coup, là, on approche de la fin de l'émission. Du coup, on vous réinvite, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos témoignages, vos commentaires ou tout ce que vous trouverez pertinent. Alors, je vous redonne les coordonnées de l'émission si vous avez envie de nous écrire. Donc, soit par mail à l'adresse lesmurs@riseup.net, lesmurs tout attaché, L-E-S-M-U-R-S, @riseup.net, N-E-T. Ou sinon, vous pouvez aussi nous écrire par courrier à l'adresse lesmurs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP422. Grenoble 38018, je répète l'adresse, les murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP422, Grenoble 38018. On voulait aussi vous dire que donc, vous pouvez réécouter cette émission et les émissions précédentes sur le blog des murs ont des oreilles, dont l'adresse c'est https://lesmurs-ont-des-oreilles-tout-attaché.noblogs.org. Voilà, la prochaine émission, ce sera le 21 novembre, donc toujours de 19h à 20h, toujours sur Radio Kaléidoscope. Et juste avant de partir, puisqu'on a encore un petit peu de temps, je voulais bien faire un petit point, puisqu'en fait, au moment même où on enregistre cette émission, on apprend qu'il y a un déploiement policier de fou donc sur la ZAD. Donc la ZAD, c'est la zone à défendre selon les personnes sur place. Donc c'est une grande zone au nord de Nantes, où il y a un projet d'aéroport, de construire un aéroport. Et depuis 40 ans, il y a des personnes qui luttent contre l'installation de ce projet sur place, et notamment il y a plusieurs terrains et maisons qui sont occupés pour protester contre tout ça, et que du coup, il y a donc depuis ce matin, tôt le matin, donc des dizaines et des dizaines et des dizaines de forces de police, gendarmerie et tout le tralala qui sont en train d'expulser certaines de ces maisons. Évidemment, il y a des mouvements de résistance sur place. Et voilà, peut-être qu'on sera amené à vous redonner plus d'infos sur cette lutte plus tard. Mais juste, voilà, on affirme notre solidarité avec les personnes sur place et contre la répression. Voilà, et ben au mois prochain. Salut.
Salut. Bon courage.